Rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus tout à l'heure. Je suis très heureux de votre intérêt et d'accueillir si bien mon collègue, le professeur Stephen McKenzie, qui nous vient de Tennessee. Il n'y a pas seulement du whisky au Tennessee, il y a aussi des études bibliques, le bourbon, oui, voilà, tout à fait. Mais on ne va pas parler de ça, c'est un autre sujet. Alors, professeur McKenzie a fait ses études à Harvard et il occupe une chaire de Bible hébraïque à une institution qui s'appelle le Rhodes College à Memphis. Et c'est un des auteurs les plus prolifiques en ce qui concerne l'Ancien Testament. Je ne vous ai pas amené tous ses livres. Je vais les faire passer, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc on va surveiller que les livres reviennent. C'est vraiment important. Donc je vais juste vous présenter quelques-uns de ses livres. Parce qu'il en a écrit, je n'aurais pas pu les amener comme ça. Donc, je ne sais pas. How many books you've written? 20, 30? Il a vraiment écrit beaucoup. Donc, ce que j'aimerais vous présenter, c'est ce livre-là qui date déjà un peu, très, très important. Et c'est surtout un spécialiste des livres dits historiques des prophètes antérieurs et plus particulièrement encore des livres des rois, dont il ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est le livre des rois. Donc, il a écrit ce livre-là. Ça s'appelle The Trouble with Kings. The Composition of the Book of the Kings in the Deuteronomistic History. Et ça, c'est un livre, en fait, quand j'avais lu ce livre, j'étais convaincu, en effet, ça commence avec l'époque de Josias. Avant, je croyais que tout commençait avec l'exil. Quand j'ai lu ce livre-là, il m'a convaincu. Et après, c'est lui qui a changé d'idée, et maintenant, et lui, il pense que tout commence avec l'exil, et moi, je reste avec ce livre-là, que tout commence avec Josias. Et puis, il a aussi écrit un livre un peu plus grand public sur le roi David, qui est traduit en français, donc là, vous pouvez le lire en français. Le roi David, le roman d'une vie. Donc, je vous recommande, ça se lit très facilement. Et il est aussi le spécialiste des introductions un peu inhabituelles de la Bible, c'est-à-dire pas ce que je fais, des choses un peu plus drôles. Il y a un livre qui s'appelle « Backdoor Introduction to the Bible », donc « Entrer dans la Bible par la petite porte », comme ça, par la porte de derrière. Donc, il pose des questions un peu autrement, donc vous allez feuilleter. Et un autre livre, How to Read the Bible, comment faut-il lire la Bible, où il donne aussi toutes sortes de clés. Est-ce que les histoires sont historiques? Est-ce que les prophètes sont vraiment des prophètes? Et ainsi de suite. Donc, je vous le recommande aussi. Et puis, son dernière œuvre, le plus lourd aussi, c'est un commentaire du livre des rois, pas de l'ensemble, mais surtout des livres prophétiques d'Élie, d'Élisée, 1 roi 16 à 2 rois 16. Qui vient de sortir. Donc, pour ceux qui s'intéressent au roi, c'est vraiment le livre de référence. Mais aujourd'hui, il ne va pas nous parler des rois, il va nous parler de la Genèse. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, peut-être il va nous l'expliquer. Évidemment, on est libre de choisir son sujet. Donc, il va en effet nous parler comment faut-il lire Genèse 1. L'avantage, c'est que c'est un texte que beaucoup d'entre vous connaissez, mais vous ne connaissez peut-être pas encore l'interprétation que le professeur McKenzie va vous donner maintenant.
Merci beaucoup, Thomas. Mesdames et messieurs, la révolution scientifique qui a son épicentre dans la France du XVIe au XVIIIe siècle provoque une crise d'identité autour de l'interprétation de la récit de la création en Genèse 1. L'exégèse de la Bible liée à cette révolution scientifique est développée suite aux intuitions de Jonas Strouk et d'autres, a observé que le premier chapitre de la Genèse juxtapose deux versions de la création, l'une en Genèse 1 et l'autre en Genèse 2 à 3. Il était relativement facile d'accommoder cette dernière version avec la science parce que ce récit n'émettait aucune prétention à l'exactitude scientifique. Les personnages Adam et Ève furent immédiatement identifiés comme des symboles pour l'homme et la femme, sans prétention à l'exactitude historique. Mais si Genèse 1 n'était pas un récit scientifiquement exact de l'origine du monde, comment devait-il être lu? Le problème demeure aujourd'hui avec ceux qui rejettent simplement la pertinence de ce passage et d'autres qui le présentent comme compatible avec la science. Parce que la science, car il présenterait un passage des formes de vie inférieures à des formes de vie supérieures. Aucune de ces approches n'est satisfaisante. Dans cette présentation, j'analyserai Genèse 1 en utilisant l'approche de la critique des formes qui se concentre sur la structure littéraire et son but. Je proposerai ensuite quelques considérations pratiques. Nous pouvons commencer par ce qui semble être une question simple, mais qui est en fait difficile à élucider. Quelle est la première chose que Dieu crée dans la Genèse? Est-ce que sont les cieux et la terre, verset 1, ou la lumière, verset 3? La réponse dépend de l'interprétation de la première phrase de Genèse 1. Habituellement traduite par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », mais qui peut parfois être rendu par une clause temporelle. Lorsque Dieu commença de la création des cieux et de la terre. Le problème est que le texte hébreu de Genèse 1 pose un problème grammaticalement et ne fait pas sens. Littéralement, il faudrait lire « Au commencement, de le Dieu créa les cieux et la terre ». Nous avons ici un problème de voyelle en hébreu. Comme vous le savez peut-être, l'hébreu était d'abord écrit uniquement avec des consonnes. Les voyelles ont été ajoutées des siècles plus tard. Pour faire sens de Genèse 1:1, il faut changer une voyelle. Et il y a deux possibilités. La première est de changer la voyelle de la première syllabe, du premier mot, Bereshit, au lieu de Bereshit, pour ceux et celles qui connaissent l'hébreu. Ce qui nous donne le sens, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'autre possibilité est un changement de voyelle dans le deuxième mot, bara abaro, ce que l'on peut traduire par au commencement du fait de Dieu créant les cieux et la terre, ou, plus familièrement, par la clause temporelle quand Dieu commença de créer les cieux et la terre. Selon le petit changement de voyelle que l'on choisit, une différence de sens importante est introduite. Dans la première option, on a cinq phrases qui vont staccato dans les versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre étant sans forme et vide, l'obscurité était sur la surface de la profondeur, le vent de Dieu tournoyait sur la surface de l'eau, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. La deuxième option produit une seule longue phrase. Lorsque Dieu commença de créer les cieux et la terre étant sans forme et vide, avec l'obscurité sur la surface de la profondeur, et le vent de Dieu tournoyant sur la surface de la terre, alors Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Plus important encore, il y a une énorme différence théologique entre ces deux options. Dans la première, la création est ex nihilo, à partir de rien. Le premier élément de la création est les cieux et la terre. Dieu les parle ou les pense en existence. Le verset 2 décrit la forme qui prennent les cieux et la terre dans l'acte de la création divine. Dans la deuxième option, les cieux et la terre sont déjà présents dans une forme quelconque quand Dieu commence à créer. Ce ne sont pas les premiers éléments de la création. La lumière est le premier élément créé. Le verset 2 décrit l'état chaotique des cieux et de la terre au moment où Dieu commence de créer en faisant la lumière. Dans ce scénario, la création ne correspond pas à produire quelque chose à partir de rien, mais il s'agit plutôt d'apporter l'ordre dans la matière chaotique. 5 arguments permettent de privilégier la deuxième traduction. Premier argument, la répétition. Au sein du chapitre 1, mais après le verset 1, on trouve une création spécifique des cieux et de la terre. Le verset 6 à 8 raconte comment Dieu crée un dôme qui sépare les eaux sous la terre des eaux au-dessus de la terre. Dieu appelle ce dôme ciel ou cieux. En hébreu, le même terme est utilisé ici que pour la phrase cieux et terre au verset 1. De manière similaire, dans les versets 9 à 10, Dieu sépare les eaux sous la terre du sol sec et appelle le sol sec terre. À nouveau, on trouve le même mot pour terre que dans l'expression cieux et terre. Cela n'indique pas la confusion du rédacteur de ce document ou le fait qu'il aurait pensé que Dieu avait créé le monde deux fois. Au contraire, on peut considérer l'ouverture du verset 1 comme un résumé qui anticipe toute l'entreprise de création. Dans ce cas, les cieux et la terre ne sont pas les premiers éléments créés, mais une expression qui décrit le cosmos comme l'auteur du texte le concevait avec tout ce qu'il y avait dedans. Deuxième argument, l'intrigue. Si le but du document est la création à partir de rien, il n'y a pas de raison pour que Dieu crée d'abord la terre comme une masse informe et vide. Il n'y aurait pas non plus besoin d'actes de création distincts sur une période de 6 jours. Dieu pourrait simplement tout faire exister pour la pensée dans sa forme finale. Troisième argument, la syntaxe hébraïque. Les phrases dans le verset 2 témoignent d'une construction, le sujet en première, qui en hébreu indique généralement une information entre parenthèses. Ainsi, il y a une relation entre les versets 1 et 3 que le verset 2 interrompt. Cela correspond à la deuxième interprétation, mais pas à la première. La création de la lumière n'est pas une action qui serait séparée de la création initiale des cieux et de la terre, mais elle est intimement associée à cet acte de commencement. Si l'on emprunte le langage des phrases conditionnelles, le verset 1 est la prothèse et le verset 3 la podose. Le verset 3 indique ce que Dieu a fait et le verset 1 nous dit quand il l'a fait. Quatrième argument, les parallèles. Il y a d'autres récits de création dans l'approche orientale ancienne qui emploient la même construction avec une clause temporelle, une parenthèse et une clause principale. Le récit babylonien de la création, les Numériche, est un bon exemple. Voici les premières 10 lignes. Comme en Genèse 1 à 3, il y a une clause temporelle suivie par une parenthèse qui décrit la condition chaotique du monde à ce moment-là. Ensuite vient la clause principale qui nomme le premier élément de la création, les dieux engendrés par le couple primal, Apsu et Tiamat, la jonction de l'eau douce et salée dans le sud de la Mésopotamie. On trouve un exemple encore plus proche dans le commencement du deuxième récit de la création en Genèse. Une comparaison synoptique le montre clairement. La syntaxe identique de ces deux passages est une des indications que Genèse 2 à 3 contient un récit de la création indépendant de Genèse 1. À nouveau, une clause temporelle est suivie par une parenthèse qui décrit les conditions au moment de la création, et ensuite par une clause principale qui détaille le premier acte de création. En d'autres termes, la phrase qui raconte le premier acte de création de Yahvé est interrompue par une parenthèse qui décrit l'état du monde lorsque la création commence. Cinquième argument, la structure comme un tout. La cinquième raison qui conduit à préférer cette interprétation s'appuie sur la structure de Genèse 1 comme un tout. C'est un élément central pour révéler le vrai but de ce récit de création, et cette structure va être l'objet de la suite de cette présentation. Le premier récit de la création est un document bien structuré. Il est organisé en jours. 6 jours de la création sont racontés au chapitre 1. Chaque jour finit avec la formule « il y a un soir et il y a un matin » additionné au chiffre du jour. Ensuite, le septième jour est décrit en Genèse 2 à 3. Cela vient du fait que la division en chapitres et en versets a été ajoutée à la Bible hébraïque seulement au XIIIe siècle de notre ère. Souvent, cette division ne reflète pas les dimensions des textes originaux. En Genèse 2, 1 à 3, Dieu se repose le septième jour et ne crée rien. Chaque jour en Genèse 1 suit un modèle. Ce modèle n'est pas rigide. Il commence par la formule « Dieu dit », suivie par une clause jussive, c'est-à-dire un commandement à la troisième personne, comme « qu'il y ait »,« que les eaux », etc. Et une fois au verset 26, un commandement à la première personne de pluriel, « faisons ». Parfois, il y a une série de commandements, comme pour le jour 2, qui indique « Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux ». Après le commandement de Dieu, on trouve une expression d'accomplissement qui explique que ce que Dieu commande prend forme. Au verset 3, le texte dit simplement « et il y eut de la lumière ». Dans d'autres cas, on trouve « et il en fut ainsi ». Parfois, cette formule d'accomplissement est associée à une affirmation que Dieu a faite ou a créé l'élément dont il a commandé l'existence. Ainsi, à nouveau, pour le jeu 2, Dieu commande le dôme. Ensuite, le texte affirme que Dieu fit le dôme et ajoute « il en fut ainsi ». À chaque fois que ce modèle est répété, je parlerai d'un acte de création. Ainsi, Dieu dit « plus un commandement, plus une formule d'accomplissement est un acte de création ». Nous nous intéresserons à l'importance de ce fait dans un moment. Pour terminer la liste d'autres formules répétées, je nomme encore les éléments suivants. Lors de chacun des 3 premiers jours, on trouve une affirmation que Dieu appela ou nomma sa création. Ainsi, Dieu appela la lumière jour, le dôme ciel, et le sol sec, terre sèche, terre. Pour chaque élément de la création ou catégorie créée, sauf pour le dôme ou ciel au deuxième jour, il y a une affirmation selon laquelle Dieu trouva que cela était bon. Après avoir créé les êtres humains au sixième jour, le texte déclare que Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites et que c'était très bon. Deux éléments de la création de Dieu sont bénis par lui, les créatures qui habitent les cieux et les mers au cinquième jour et les êtres humains le sixième jour. Un jour seulement est béni et sanctifié, le septième jour, lorsque Dieu se repose. Étonnamment, il y a plus d'actes de création qu'il n'y a de jours de création. Cela est dû au fait que deux actes de création ont lieu le jour 3 et aussi le jour 6. Le troisième jour, le verset 9 rapporte un acte de création. Dieu dit que les eaux sur le ciel soient rassemblées ensemble en un seul endroit et que le sol sec apparaisse. Et il en fut ainsi. Le texte continue et remarque que Dieu appela le sol sec terre et les eaux mers et que Dieu vit que c'était bon. Ici, on s'attendrait à la formule qui indique le troisième jour, il y eut un soir et un matin. Au lieu de cela, le texte introduit un second acte de création. Dieu dit que la terre produise de la végétation, etc., et il en fut ainsi. C'est seulement après la continuation d'accomplissement, au verset 12, la terre produisit de la végétation, etc., et Dieu vit que cela était bon, que le texte donne finalement la formule pour le troisième jour au verset 13. De même, pour le sixième jour, le verset 24 décrit un acte de création. Dieu dit que la terre produise des créatures vivantes de tous les types, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces, et il en fut ainsi. À cela s'ajoute la description des animaux créés par Dieu au verset 25, qui conclut par « Dieu vit que cela était bon ». À nouveau, on s'attend à la formule « Il y a un soir et un matin, jour 6 » et à nouveau, à lieu de cela, on assiste à un nouvel acte de création. Dieu dit « Faisons l'humanité à notre image ». La notice au sujet de soir et de jour qui marque la fin du sixième jour intervient seulement au verset 31, après une description supplémentaire des êtres humains. La liste complète des actes de création selon les jours est donc la suivante. Jour 1, la lumière. Jour 2, le dôme qui sépare les eaux. Jour 3, 3A, la terre sèche, 3B, la végétation. Jour 4, le soleil, la lune, les étoiles. Jour 5, les poissons et les oiseaux. Jour 6, 6A, les animaux de la terre. 6B, les humains. Si on sépare cette liste en deux, on voit immédiatement qu'il y a une correspondance entre les deux parties. La lumière, le premier jour correspond au soleil, à la lune et aux étoiles. Le quatrième jour, parce qu'ils sont porteurs de clarté. Le dôme qui sépare les eaux, le deuxième jour, correspond aux oiseaux qui volent dans le ciel et aux poissons qui vivent dans les eaux de la terre. La terre sèche et la végétation du troisième jour sont l'habitat et la nourriture des animaux et des humains. Créé le sixième jour. Si on revient maintenant au premier jour, nous avons établi le cinquième argument en faveur de la lumière comme premier élément de la création. Les cieux et la terre ne peuvent pas être sept éléments parce qu'ils sont en dehors du modèle journalier qui commence par Dieu dit au verset 3, et parce qu'il ne correspond pas au soleil, à la lune et aux étoiles. À présent que nous avons répondu à la question de savoir quel était le premier élément de la création, nous pouvons nous intéresser à quelques autres implications de cette analyse. Nous pouvons commencer par la phrase « soir et matin ». Notre façon de mesurer une journée de 24 heures, habituellement, nous inversons ces éléments en parlant de matin et de soir, ou de du jour et de la nuit. C'était probablement aussi le cas dans l'Israël ancien. Si l'on prend en compte la préférence habituelle de la Bible hébraïque pour jour et nuit au lieu de nuit et jour. Même en Genèse 1, jour et nuit correspondent à l'ordre que l'on trouve dans les versets 14 à 19, qui rapporte la création du soleil et de la lune le quatrième jour. Le texte indique que Dieu crée le soleil et la lune pour séparer le jour de la nuit et pour dominer le jour et la nuit. Donc, soir et matin ne correspondent pas à une désignation habituelle. Au contraire, on a ici une formule cultuelle qui souligne le moment où le jour commence officiellement dans le calendrier religieux. Dans la tradition juive, le jour commence non pas à minuit, mais à coucher le soleil. Cette tradition se prolonge aujourd'hui encore avec le commencement du sabbat le vendredi soir. La tournure inhabituelle, soir et matin, en Genèse 1, indique donc que nous avons ici un document avec une orientation religieuse qui utilise des traditions culturelles. Il faut donc se montrer prudent avant d'en faire quelque chose de différent. Ceci n'est pas un récit scientifique de l'origine du cosmos. Nul besoin d'être un expert en sciences naturelles pour constater que de nombreuses affirmations de récit ne sont pas admissibles d'un point de vue scientifique. L'existence de la lumière, du jour et de la nuit, et de la végétation avant la création du soleil et de la lune sont des impossibilités. La désignation du ciel au verset 6 comme « dôme », le sens du mot souvent traduit par « firmament » ou « voûte », présume que la terre est plate. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. De même, au verset 21, le mot traduit par « monstre marin » est utilisé ailleurs dans la Bible hébraïque pour parler de dragons et d'autres créatures mythiques. Si nous avons ici un document théologique et non pas scientifique, quel est son but? Évidemment, on trouve l'idée que Dieu, et en particulier Dieu Yahvé, le Dieu d'Israël, identifié explicitement au chapitre suivant, a créé le monde. Cette notion ne doit pas être négligée, mais la richesse théologique de Genèse 1 va plus loin. Pour en discuter, nous devons revenir à notre analyse en termes d'histoire des formes et nous devons poser une autre question. Pourquoi? Pourquoi l'auteur choisirait-il de raconter la création en 8 actions qu'il doit ensuite accumuler en 6 jours? Pourquoi ne pas simplement la formuler en 6 actions? Ou alors utiliser 8 jours pour mettre en forme son récit? Ces questions ont 2 parties et chaque partie peut être traitée indépendamment. Il est plus facile de répondre à la deuxième partie et nous commencerons par là. Rappelez-vous qu'il y a 6 jours de création, mais 7 jours en tout pour le récit. Le 7e jour, décrit en Genèse 2, 1 à 3, est un jour de repos, une référence transparente au sabbat juif, qui signifie repos. L'auteur rapporte la création en 6 jours pour laisser le 7e jour, le sabbat, ouvert, et insister sur son importance. Quant à la première partie de la question, une des raisons pour un récit de la création en 8 actions est l'équilibre que nous avons évoqué précédemment. Tout de même, l'auteur aurait pu atteindre le même résultat avec un récit de la création en 6 actes au lieu de 8. Ceci nous laisse à penser que l'auteur connaît et utilise certaines traditions antérieures à propos d'une création du monde en 8 épisodes ou catégories. Je m'empresse d'ajouter que nous ne possédons pas ces traditions. On peut seulement conjecturer son existence à partir de Genèse 1. Ainsi, le récit de la création en Genèse 1 a été écrit pour servir d'étiologie de sabbat. Étiologie, comme vous le savez peut-être, vient du mot grec qui signifie « cause ». C'est une histoire qui propose une explication de la cause ou de l'origine de quelque chose, comme un nom, une coutume ou une pratique religieuse. Pour le dire clairement, la chose qui est expliquée existe d'abord, et ensuite, le récit qui rend compte de son origine est créé ultérieurement. Genèse 1 est une étiologie de sabbat. C'est aussi un argument théologique fort pour respecter le sabbat. Cet argument se développe de 2 façons. Premièrement, le récit décrit le sabbat comme faisant partie de l'essence de l'univers, inscrite dans sa matière même depuis le commencement. Ainsi, il ne peut pas être rejeté comme une simple pratique sociale ou rituelle. Deuxièmement, Dieu lui-même respecte le sabbat quand il crée l'univers. Quel est l'être humain qui oserait le négliger? Ce deuxième point élève le sabbat en présentant Dieu comme lui étant soumis lui aussi. Il est difficile d'imaginer un meilleur argument pour respecter le sabbat. L'importance accordée au sabbat trahit la source du document. Quelle classe de personnes aurait intérêt à promouvoir le respect au sabbat? La réponse est les prêtres. Le maintien des sacrifices et des rituels en lien avec le sabbat et le reste du calendrier culturel assurait leur subsistance. Je ne fais pas cette observation de manière cynique. Les prêtres croyaient vraiment en leur vocation et dans le besoin pour le rituel. Il reste que la raison pour cette vocation, pour leur existence et leur essence en tant que fonctionnaires religieux était liée à des choses comme l'observation du sabbat et dépendait de leur capacité à convaincre le public du besoin de maintenir les rituels. La plupart d'entre nous ne sont pas prêtres. Nous ne sommes pas forcément persuadés par les arguments proposés pour le maintien du sabbat en Genèse 1. Qu'y a-t-il donc dans ce récit de la création qui pourrait avoir une valeur pour nous aujourd'hui? Je pense qu'on peut dire qu'il y a une grande partie de ce récit qui reste pertinent. D'abord, une lecture attentive de Genèse 1 libère. Elle libère du besoin de faire en sorte que le passage corresponde à la science. Une fois que l'on comprend que le récit de la création ne concerne pas la connaissance scientifique, mais s'intéresse à un ancien calendrier culturel, nous sommes libres libre d'accepter sans hésitation les progrès d'un monde qui se situe après les Lumières. De plus, nous pouvons réfléchir sans embarras aux observations sur nous-mêmes et sur le monde que le récit théologique de Genèse 1 peut offrir. Je souligne deux de ces observations. La première, c'est d'ordre écologique. Genèse 1 offre une place particulièrement privilégiée aux êtres humains. Selon le texte, nous sommes le dernier acte de la création, le sommet de l'entreprise de création. Nous sommes le premier élément fait à l'image de Dieu, le seul à qui il est donné de dominer sur le reste de la création. Ce pouvoir et cette domination sont presque infinis, comme les avancées de la science moderne et de la technologie l'ont démontré. Les êtres humains font aujourd'hui de façon routinière des choses encore impossibles il y a quelques décades. Et les avancées continuent chaque jour. Qui sait ce qu'il va advenir dans les prochaines années? Mais avec le pouvoir et la domination vient aussi la responsabilité. La vie végétale dans le monde nous est donnée. C'est à nous de l'utiliser avec sagesse, de s'en occuper, de la préserver. Il faut remarquer que Dieu déclare que chaque élément de la création est bon avec une exception, les êtres humains. Jusqu'à l'apparition des êtres humains, chaque acte de la création est décrit comme bon. Après que les êtres humains sont créés, Dieu voit que la création dans son ensemble est bonne, mais le jugement bon n'est pas appliqué de façon spécifique aux êtres humains. La création est bonne et c'est un don pour nous. Il appartient aux êtres humains de préserver la qualité de la création. Depuis les Lumières, les êtres humains ont acquis un contrôle et une domination sur le monde qui va croissant, au point que nous avons maintenant altéré le climat de notre planète et endommagé la création qui nous a été donnée pour la préserver et la choyer. Mettre fin à cette destruction et faire tout ce qui est possible pour rétablir l'écologie est un impératif scientifique, théologique et biblique. La deuxième observation se situe à l'échelle de la santé psychologique et physique individuelle. Le premier récit de la création nous propose un peu de sagesse pratique dans sa recommandation de sabbat, c'est-à-dire d'un moment régulier consacré au repos. En tant que créature munie d'un intellect supérieur, à l'image de Dieu, le repos, la réflexion et la relaxation sont aussi importantes pour nous aujourd'hui que pour les habitants du monde ancien de la Bible. Merci beaucoup.